RFI, il est 6h30 en temps universel, 8h30 à Paris. Le journal présenté par Édouard Dupénoit. Bonjour Édouard.
Bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. À la une ce matin, l'espoir dans la lutte contre le paludisme. En ce 25 avril, journée internationale consacrée à la lutte contre la maladie, focus sur les campagnes de prévention qui émergent avec deux vaccins officiellement homologués par l'OMS. Les tests ont déjà porté leurs fruits au Ghana notamment, vous l'entendrez. Des prisonniers acquittés mais pas libérés au Cameroun, une trentaine de détenus qui avaient été condamnés en 2022 pour tentative d'assassinat contre le président de Guinée équatoriale. Il s'agit principalement de ressortissants tchadiens. Ils ont eu gain de cause finalement en février dernier, mais restent toujours derrière les barreaux. Vital Kamerhe en passe de retrouver la présidence de l'Assemblée nationale en RDC. Il a remporté la primaire de la majorité présidentielle. On vous l'annonçait hier sur RFI. Eh bien, on revient ce matin sur sa future présidence, dont les contours commencent à se dessiner. Le Portugal, qui célèbre aujourd'hui les 50 ans de sa révolution des œillets. Et dans ce journal, le témoignage de l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, une ancienne colonie dans laquelle il se battait pour l'indépendance. Et puis notre dossier du jour, la lutte contre la désinformation, un fléau en Centrafrique où les initiatives se multiplient. L'enjeu reste de taille. En 2022 encore, le paludisme a fait quelque 600 000 morts à travers le globe. 95% de ces décès ont été enregistrés sur le continent africain et les enfants de moins de 5 ans restent les principales victimes. Alors, pour lutter, la prévention est primordiale, mais il y a de l'espoir. Depuis octobre, l'Organisation mondiale de la santé recommande officiellement deux vaccins. Des campagnes émergent peu à peu après des tests à grande échelle réalisés depuis 2019 dans trois pays, à savoir le Kenya, le Malawi et le Ghana. Des tests qui ont fait reculer la mortalité infantile de 13%. Au Ghana, justement, notre correspondant Victor Cariou s'est rendu dans un centre de proximité.
Une petite piqûre sur le bras. Et ça y est, Precious, fillette de 10 mois à peine, a reçu sa troisième dose du RTSS, l'un des deux vaccins contre le paludisme. Un soulagement pour sa mère, Victoria.
Les enfants, quand ils ont le paludisme, ça peut être très dangereux. Ils ne peuvent pas exprimer leur douleur. Donc j'ai beaucoup aimé quand ils ont commencé la vaccination pour nos enfants.
Elles sont une trentaine de mères et autant de bébés à s'être regroupées ce matin sous le préau d'un des centres de santé de Boudouburam, ville à l'ouest de la capitale, Accra. Pour les accueillir, Félicité Otou, responsable du contrôle des maladies pour le système de santé ghanéen.
Les gens ici ont bien accueilli le vaccin, surtout parce que nous avons pu leur donner de bonnes informations sur les bénéfices sanitaires du vaccin avant que nous commencions vraiment à le faire.
Ces séances gratuites sont aussi l'occasion de faire un suivi médical, de prescrire des traitements en cas de besoin, de répondre aux questions des parents, autant d'aspects primordiaux dans la lutte contre le paludisme. Félicité Otou.
La lutte contre le paludisme, ce n'est pas juste le vaccin. Par exemple, il faut que les parents s'assurent que leur enfant soit correctement nourri. Parce que si l'enfant reçoit le vaccin sans avoir les nutriments nécessaires, comment peut-il développer les anticorps ?
Au total, dans les zones pilotes du programme de vaccination au Ghana, plus de 80% des nourrissons âgés de 6 mois à 1 an ont pu recevoir une première dose de vaccin. Victor Cariou, de retour de Boudouburam, RFI.
Il devrait être libre depuis le mois de février au Cameroun. RFI revient ce matin sur l'histoire de ces détenus qui débutent en décembre 2017. À l'époque, près de 75 personnes étaient arrêtées à Yaoundé, Douala, Ebolova et Kiéossi dans le sud. Une partie de ces personnes sera finalement libérée, mais une trentaine d'autres, essentiellement des ressortissants tchadiens, se verront pour leur part poursuivis par la justice militaire, accusés de tentative d'assassinat contre le président de Guinée équatoriale voisine. Théodoro Obiang Nguema. Après 4 années de procédure, en mars 2022, des peines de 30 à 35 ans de prison sont prononcées en première instance. Mais rebondissement en février dernier dans cette affaire avec un acquittement en appel, Amélie Tulé. Et depuis, les prisonniers attendent leur libération.
Le 15 février dernier, quand la cour d'appel du centre rend sa décision, elle infirme en partie le jugement rendu en 2022 par le tribunal militaire de Yaoundé. Ainsi, elle déclare tous les accusés non coupables de conspiration d'assassinat, hostilité contre la patrie et introduction et transport d'armes. Elle les acquitte donc. En revanche, elle déclare 12 d'entre eux coupables d'immigration clandestine. Pour cela, elle les condamne à des amendes de 2 millions de francs CFA chacun et à 2 ans de prison. Mais tous ont déjà passé 6 années, soit le triple de leur peine, derrière les barreaux. Leur avocat, maître Emmanuel Sim, dénonce le fait que cette détention se prolonge encore plus de 2 mois après la décision de la Cour.
J'ai fait des démarches administratives auprès du commissaire du gouvernement et auprès du directeur de la justice militaire qui m'a dit attendre les instructions de sa hiérarchie. Je ne comprends pas qu'on attende un quelconque ordre d'un supérieur hiérarchique pour simplement exécuter une décision rendue de manière régulière par des juridictions camerounaises établies par l'État du Cameroun.
L'avocat dit aussi avoir saisi le ministère tchadien des Affaires étrangères à travers l'ambassade du Tchad au Cameroun. Les détenus tchadiens, eux, ont écrit au parquet pour demander la transmission des résultats d'audience à la prison centrale de Yaoundé pour qu'ils puissent être libérés.
Les explications d'Amélie Tullet. Il a remporté mardi la primaire inédite organisée au sein de la majorité présidentielle en RDC. On vous l'annonçait hier sur RFI. À Kinshasa, Vital Kamerhe va donc retrouver la présidence de l'Assemblée nationale. Il a devancé les deux autres prétendants, Christophe Mboso et Modeste Baati. Vital Kamerhe, qui avait déjà occupé le perchoir de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila et qui ne cachait pas sa volonté de retrouver ce poste en privé comme en public. Il trace depuis un moment les contours de son nouveau mandat, Patient Ligaudi.
Vital Kamerhe se positionne comme un allié clé du chef de l'État. Il insiste sur le rôle constitutionnel de l'Assemblée nationale comme la deuxième institution de la République qu'il compte revitaliser afin qu'elle joue mieux sa mission de contrôle du gouvernement qu'il rappelle être la quatrième institution. Kamerhe rejette toute forme de flatterie et se présente comme le catalyseur des promesses et de la vision de Tshisekedi. Il souligne que la mission de l'Assemblée n'est pas de demander des comptes au président, mais plutôt de scruter l'action des ministres. Ainsi, il envisage de renforcer le contrôle gouvernemental en précisant que les manquements des ministres ne devraient pas réjaillir sur le président. Il promet des sessions hebdomadaires de contrôle de l'exécutif au cours desquelles les ministres seront convoqués par secteur pour évaluer la mise en œuvre du programme gouvernemental. Il insiste également sur l'importance de l'accès aux rapports de l'Inspection générale des finances pour l'Assemblée nationale afin de garantir une transparence et une responsabilité accrue dans la gestion publique. Cette posture sera-t-elle suffisante pour apaiser ceux qui l'accusent de vouloir se servir de ses postes comme d'un tremplin pour ses ambitions présidentielles? Des proches de Félix Tshisekedi préfèrent attendre de voir son action avant de porter un jugement. Patient Ligaudi, Kinshasa, RFI.
Mais Vital Kamerhe, qui devrait donc retrouver le perchoir prochainement, sauf une grande surprise, c'est une question de formalité désormais. On attend une date pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, une assemblée, rappelons-le, au sein de laquelle l'Union sacrée, la majorité présidentielle est sortie considérablement renforcée des élections législatives de décembre. Un anniversaire aujourd'hui au Portugal. Le pays célèbre les 50 ans de la révolution des œillets. Après pratiquement 50 ans de dictature, le 25 avril 1974, un coup d'État militaire ouvrait une nouvelle ère pour le Portugal, mais aussi pour ses anciennes colonies en Afrique, avec lesquelles le régime de Salazar était en guerre depuis plus de 10 ans. Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique, était justement à l'époque un combattant du Frelimo, parti qui luttait pour l'indépendance de son pays. Il se souvient de cette journée historique sur RFI.
Nous avons appris des nouvelles du coup d'État en Portugal à travers la radio. Moi, personnellement, et d'autres compagnons, nous étions au camp d'entraînement politico-militaire de Frelimo en Tanzanie. Et nous avons compris que c'était un coup d'État qui pourrait éventuellement avoir des manœuvres des gens qui ne voulaient pas l'indépendance de Mozambique, mais qui voulaient jouer d'autre façon une décolonisation qui n'était pas celle que nous souhaitions. Mais en même temps, nous avons compris que c'était à cause des forces armées qui étaient fatiguées de cette guerre. Donc, nous avons pris l'attitude que le coup d'État serait déjà de la fin, peut-être du fascisme, mais nous ne pourrions pas assumer que c'était la fin du colonialisme. Donc il fallait continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ait les conditions pour avoir notre indépendance.
Joaquim Chissano, l'ancien président du Mozambique, contacté par Liliana Henriquez. Lutter contre les accidents du travail, la volonté affichée au Gabon, où la Caisse nationale de sécurité sociale a réuni hier plusieurs entreprises issues de secteurs particulièrement exposés aux risques. C'est le cas de l'industrie du bois notamment. L'objectif ici, c'est évidemment de limiter le nombre d'accidents survenus sur le lieu de travail et ainsi limiter la facture de leur prise en charge. À Libreville, précision d'Yves-Laurent Goma.
Les données compilées par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS montrent que 2017 a été l'année la plus dramatique au Gabon en termes d'accidents de travail. Marius Francisco Akewa Degbevi, directeur de la prévention des risques professionnels.
On était autour de 2500 accidents de travail déclarés par an et on a bondi à près de 5000 accidents de travail déclarés en une année. C'est l'industrie du bois donc est fort pourvoyeuse d'accidents de travail. C'est près de 2500 nouveaux cas d'accidents de travail déclarés chaque année.
Outre l'industrie forestière, le transport et l'agriculture industrielle, notamment les champs de palmiers à huile, sont les deux autres secteurs où les accidents du travail sont les plus fréquents au Gabon. La facture est lourde, reconnaît Olivier Rebeno Pellegrin, directeur général de la CNSS.
Ça coûtait 1,5 milliard par an en 2017. Actuellement, on est à peu près à 500 millions en termes de prise en charge par an. Cette amélioration est justifiée justement par les actions que la CNSS a mises en œuvre depuis 2022 et cela a permis de réduire le nombre d'accidents.
Pour lutter contre ces accidents, le Gabon mise sur la prévention et la création des comités de santé et de sécurité au travail. Le plus dur maintenant est de fédérer toutes les entreprises autour de cette stratégie. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Lutter contre la désinformation, c'est notre dossier ce matin en Centrafrique où le quotidien des habitants est gangréné par les fake news. Alors, la société civile se mobilise avec des campagnes de sensibilisation, Rolf-Steve Domialeux.
Dans une période marquée par des tensions entre le pouvoir et l'opposition, des crises socio-économiques et sécuritaires, la désinformation est devenue omniprésente en RCA. Arsène Mossiavo est le directeur de publication du journal Les Autres Nouvelles de Centrafrique.
À partir des années 2017 jusqu'à nos jours, on assiste à une flambée de désinformation. Pour essayer de nuire à certains hommes politiques, il fallait raconter des histoires pour essayer de freiner leur avancée dans l'espace politique, surtout en période électorale.
Problème, le public centrafricain n'est parfois pas suffisamment averti. Les polémiques et la désinformation peuvent donc alimenter les conflits, selon Junior Bouté, secrétaire général du consortium des journalistes pour la lutte contre la désinformation.
La couche sociale est déchirée par rapport à la désinformation. Les hommes politiques manipulent la jeunesse à leur propre guise. La désinformation peut diviser la communauté.
Ces fausses informations sont massivement relayées sur les réseaux sociaux, explique Arsène Mossiavo. Et elles sont un danger pour la société centrafricaine.
Surtout avec la manipulation maintenant de l'Internet, surtout sur le réseau social Facebook. Il y a aussi des groupes qui sont créés au niveau des plateformes WhatsApp en Centrafrique où vous voyez des communicants qui sont de l'opposition ou bien du pouvoir en place qui essayent de s'en prendre entre eux pour leurs propres intérêts.
Pour lutter contre la circulation des fausses informations, plusieurs cellules de veille ont été créées ces dernières années par des journalistes, des acteurs de la société civile et des chercheurs. Rolf-Esther Doumerleux, Bangui, RFI.
Le développement opaque d'Ambatouvi à Madagascar, c'est le titre d'un documentaire dévoilé hier au public, réalisé par les journalistes du réseau d'investigation MALN et financé par le réseau Publié, ce que vous payez. Ce film raconte le conflit qui oppose la plus grosse société minière de l'île à des dizaines de familles. Ce film raconte plus concrètement comment les communautés implantées sur les zones d'extraction ont vu leurs conditions de vie se dégrader au fur et à mesure des années. Un mot également sur Nairobi, la capitale du Kenya qui est sous les eaux actuellement. Des inondations qui ont fait au moins une dizaine de morts hier après une nouvelle nuit de pluie diluvienne. Les autorités évoquent au total près de 60 000 personnes touchées par ces intempéries. Un communiqué affirme que Nairobi serait au bord de la crise humanitaire. L'Afrique de l'Est qui est touchée en ce moment par d'intenses intempéries accentuées notamment par le phénomène climatique El Niño. RFI, 8h44 ici à Paris. Restez avec nous, bien sûr, votre matinale continue.